La vie spirituelle, est-ce que vous entendez bien? Ça résonne un peu. Un petit cheminement sur la vie spirituelle à partir d'un livre qui s'appelle Le Bréviaire du Colimaçon, publié il n'y a pas longtemps chez DDB par une personne qui a écrit pas mal de livres, qui s'appelle Jacqueline Kellen. Donc ça, ce sont quelques extrêmes. J'ai trouvé ce livre vraiment extrêmement bien fait dans les étapes successives qui sont déroulées et le contenu. Et donc aujourd'hui, l'étape qu'on va essayer de voir, c'est comment la vie spirituelle s'enracine dans une expérience. Une expérience personnelle, une expérience vivante. Une expérience, c'est d'abord quelque chose d'intérieur, en l'occurrence, pour la vie spirituelle. Donc un premier chapitre, comme vous le voyez, est intitulé « Aller vers l'intérieur ». Et puis ensuite, si vous tournez les pages, on va s'interroger sur l'expérience de la présence. Et puis en troisième lieu, quelque chose de très important, c'est les portes qui nous sont proposées pour vivre cette expérience de Dieu, de sa présence, qui peuvent être des portes heureuses ou des portes douloureuses. On aurait pu mettre des portes joyeuses, n'est-ce pas, lumineuses, douloureuses et glorieuses, comme les mystères du rosaire, mais c'est vrai que les uns et les autres, nous allons vers Dieu de différentes façons et à partir de différents points d'impact de sa grâce. Quand on parle d'intériorité, aller vers l'intérieur, c'est aller vers la profondeur autant que vers la transcendance. Et l'adjectif latin « altus » désigne à la fois ce qui est haut, d'où le mot « altitude », mais aussi ce qui est profond. Ainsi, les mystiques chrétiens évoquent souvent Dieu en termes d'abîme, l'abîme divin, insondable, qui les happe à la cime de leur être. Cette intériorité, donc, que nous essayons de vivre n'est pas subjectivité, mais ouverture à une présence indépassable qui ne fluctue pas et qui donne la saveur de l'éternel. Alors, ça peut être dans le calme de la chambre intérieure, seul, recueilli à l'écoute, que nous pouvons avoir révélation de ce monde intérieur, de ce monde vivant, de cette vie nouvelle qui ne demande qu'à se déployer en nous, de cette présence divine dont saint Augustin fit l'expérience bouleversante. Peut-être n'avez-vous jamais remarqué la formule latine que saint Augustin, puisqu'il écrivait en latin, c'est son expérience, la formule qu'il a employée, « Tu autem eras intimior intimo meo et superior sumo meo ». En français, ça donne « Tu étais plus intérieur à moi que mon être le plus intime et plus élevé que ce qui est le plus haut en moi ». C'est ainsi qu'il parle de sa rencontre avec Dieu. « Tu étais plus intérieur à moi que mon être le plus intime » est plus élevé que ce qui est le plus haut en moi. Saint Augustin cherchait Dieu à l'extérieur, et voici, il le rencontre au fond de lui, au fond, et comme une présence éclatante qui se révèle en même temps absolue transcendance. L'expérience spirituelle est bien celle-là, dans laquelle l'être divin est à la fois proche et lointain, aimant et insaisissable. Il y a une femme belge qui s'appelle Marguerite Porrette, qu'on appelle une béguine au XIIIe siècle, qui appelle Dieu le loin près, le loin près, le bien-aimé auquel elle voue sa vie et ses chants. Maître Eckhart insiste souvent sur le fait que c'est l'homme qui est loin de Dieu, qui cherche ailleurs, à l'extérieur, alors que Dieu est là, présent, et qu'il a toujours été là, dans le sanctuaire de son cœur. Tu n'as pas besoin de le chercher ici ou là, il n'est pas plus loin que devant la porte. Il est là, debout, il guette, il attend celui qu'il trouvera prêt à lui ouvrir et le laissera entrer. Ça reprend un verset de l'Apocalypse où Jésus dit « Voici que je suis à la porte et je frappe. » Et celui qui ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je prendrai chez lui mon repas. Cette expérience donc que nous avons peut-être fait les uns et les autres à un moment de notre vie, c'est une expérience inoubliable, indicible, qui peut nourrir toute une vie d'ailleurs. Mais nul ne saurait la forcer. Ça, c'est très très important cet aspect des choses. Nul ne saurait la forcer. Ce ne sont pas des êtres spiritualisés, mais des magiciens ou des charlatans qui font croire aux naïfs qu'un homme peut obliger le monde supérieur à venir à lui ou contraindre un ange à l'aider. Un magicien, un thaumaturge exerce leur pouvoir sur le monde naturel et le monde astral. Tel est faiseur de pluie, tel autre fait apparaître des objets, mais aucune technique, aucune prière, aucune initiation ne peuvent soumettre à leur volonté des êtres supérieurs. Seules des entités basses ou démoniaques leur rendront visite. Nul mortel n'a prise sur le divin, si claire soit son âme et pure ses intentions. Mais tout homme peut se préparer à la grande rencontre. Ainsi, si vous vous souvenez avoir lu le livre de Tobie, un petit livre qui est une fiction, un roman littéraire dans la Bible, mais où Dieu donne sa parole à travers ce genre littéraire du roman. Ce vieil homme, Tobie, devenu aveugle, demeure juste, demeure pieux, malgré l'épreuve de la cécité. Et il lance ses prières vers le ciel. Mais il ne convoque pas un ange comme on ferait d'un serviteur. La foi est tout le contraire d'une volonté de puissance. Elle est confiance totale, abandon de ses désirs propres. Sortant de la maison paternelle, le jeune Tobie ne prend pas à son service Raphaël, celui qui deviendra l'archétype de l'ange gardien. C'est l'archange déguisé en homme qui s'avance vers le jeune Tobie et lui offre son aide. C'est la grâce, le secours divin, toujours possible mais imprévisible, qui sont premiers. Le petit chien suit son maître et lui obéit, mais l'ange envoyé par Dieu précède l'homme de bien et l'accompagne sur sa route singulière. Donc l'homme intérieur, c'est celui qui répond présent à la présence et qui rend grâce à la grâce. Tant qu'il n'y a pas une expérience spirituelle personnelle, la pratique religieuse est seulement rassurante et la foi risque de n'être que croyance extérieure sujette à disparaître. Un beau jour, on va dire « j'ai perdu la foi ». On va regarder voir si vous ne l'aviez pas égaré quelque part. Mais... Or, c'est l'expérience personnelle qui nous touche, qui nous brûle au fer rouge à un moment de notre vie, qui fait que nous allons pouvoir avancer sans cesse. Et l'exercice de la foi, la pratique religieuse, en sont des conséquences et des façons de s'alimenter. Mais le point de départ, c'est l'expérience de Dieu. On ne perd que des fausses idées, des croyances inculquées par d'autres, mais non la foi qui repose sur une rencontre réelle, sur un amour irréversible. Entrer dans la demeure intérieure, c'est savourer déjà l'éternité. Dans un mouvement inverse, avoir ne serait-ce que furtivement l'expérience de l'infini, conduit à la chambre secrète qui se trouve au fond de soi. Faire l'expérience de la présence de Dieu, avoir le sentiment du divin, ressentir une présence invisible mais sûre, cette expérience n'est commandée ni par la volonté ni par la raison. C'est une grâce. C'est l'irruption du monde supérieur, la visitation de l'Esprit-Saint, l'ouverture à une immensité de beauté et d'amour. L'expérience est évidente et immédiate. Ça prend une fraction de seconde généralement. Or, si un homme est incapable de contraindre une telle expérience, il peut du moins s'y préparer. Il peut du moins s'y préparer. Et on ne voit pas d'autre attitude intérieure à adopter que celle de la présence pour accueillir la présence. Se rendre présent à celui qui déjà est présent. La présence, c'est un peu ce qui est le plus négligé à l'époque actuelle, qui brasse de grands concepts, de vastes abstractions, qui bafoue, écrase la personne humaine en ce qu'elle a d'unique, d'où les manipulations génétiques et les recherches de clonage, d'où l'inflation de la chirurgie esthétique, etc. Et à l'heure des télécommunications, d'Internet, des réseaux sociaux et d'autres jeux virtuels, ce n'est plus la présence vivante, la présence réelle qui apparaît précieuse, celle d'un arbre, celle d'un ami, d'une peinture, d'un animal, mais seulement son image, sa reproduction sur écran, sa captation en photo. Bref, un objet maintenu à distance qui n'entraîne aucun risque, nul émoi. Cela peut apparaître extrêmement grave parce que l'on perd, en même temps que la présence vivante de l'autre, notre propre qualité de vivant. Dès lors, une relation véritable n'est plus possible. Elle devient désincarnée, factice et vide. Dans les célébrations de baptême et de mariage, c'est assez effarant de voir que les gens, souvent, vont s'intéresser, mais vraiment de très près, à l'appareil photo qui fait tut-tut quand ils appuient dessus, et pas du tout au baptême qui est en train de se dérouler. Mais et quelque part, le plus important, c'est l'image qu'il y aura dans l'appareil photo, et non pas le baptême qui est en train de se vivre, quoi. Et effectivement, c'est une conséquence de notre civilisation technologique. La présence se voit ainsi dépréciée, liquidée même, soit par cette mise à distance, soit encore par l'indifférence généralisée qui caractérise une société où triomphe l'égoïsme de masse, soit enfin par la dispersion effarante dans laquelle se trouvent jetés les modernes citoyens, happés par 100 choses à la fois et attentifs à aucune. Tous se retrouvent ainsi débordés, donc indisponibles. Or, quelqu'un n'est débordé que parce qu'il se trouve à la périphérie de son être, qu'il a perdu son axe. Quelqu'un de centré se montre, au contraire, ouvert et disponible. C'est pour ça que certains ressentent le besoin de faire une retraite dans un monastère, de séjourner au désert, ou encore de partir sur les routes de Compostelle, moins pour fuir la ville et le bruit que pour retrouver une qualité de présence qui fait toute la beauté et la richesse de la vie. Présence à soi, présence à ce que l'on vit, présence au monde qui nous entoure, à ce qui survient, bourrasque ou embelli, présence à ceux que l'on rencontre, présence du cœur à ceux qui sont au loin. Qui veut construire une tour commence par s'asseoir et par méditer, dit Jésus. Qui entreprend un long voyage doit d'abord rassembler toutes ses forces. Pour échapper au divertissement, en son sens pascalien, à ce qui détourne l'homme de sa dimension intérieure, il est bon de demeurer tranquillement dans sa chambre intérieure, comme un colimaçon, non par peur du monde extérieur, mais pour ressentir la présence en soi d'un monde jusqu'ici ignoré. En arrêtant sa course effrénée, en se posant dans le calme, on devient nécessairement attentif à ce qui surgit, à la moindre présence, aux émotions et aux pensées intérieures, à l'inattendu. Et le silence s'avère une nourriture à l'égal du pain. Au contraire, moins un individu a de vie intérieure, et plus il a besoin de bruit et d'agitation pour se sentir exister. Alors cette question des portes, maintenant qu'on aborde, est tout à fait juste. Les franchir des portes pour faire une expérience de Dieu, des portes heureuses, mais aussi des portes douloureuses. La vie de tous les jours offre, sans qu'on y prenne garde, diverses portes d'accès à la transcendance et à l'infini intérieur. Pour peu qu'une personne se montre attentive ou vulnérable, elle peut entrer en relation avec le monde supérieur, se laisser toucher par une présence ineffable et bien réelle, même si elle n'a aucune pratique religieuse et ne ressent pas de soif spirituelle particulière. Voici trois grandes portes, A, B et C, par lesquelles le monde numineux, c'est pas lumineux, c'est numineux, ça veut dire le monde du sacré, peut faire irruption dans le cours ordinaire des jours et qui favorise l'éclosion de l'être humain à l'Esprit Saint. A comme amour, B comme beauté et C comme crise. C'est facile à retenir. A comme beauté, A comme amour, B comme beauté, C comme crise. Ces expériences sont autant de brèches dans la cuirasse de l'homme charnel extérieur. Elles font un appel d'air vers des contrées infiniment plus vastes que toutes les terres connues. C'est à la faveur d'une de ces expériences qu'une personne peut s'ouvrir au divin. Mais elle est également libre de déprécier, d'oublier ce qu'elle a ressenti et de reprendre sa route comme si rien ne s'était passé. De même qu'elle est libre de se détourner de l'ange qui se présente à elle sous diverses apparences et de refuser son aide, son aile. Donc une première expérience, c'est celle de l'amour en ses différents aspects, sentiment amoureux, sentiment filial ou maternel, amitié, amour pour la nature et pour les animaux, passion, étreinte charnelle. Elle dépasse le mortel, le porte au-dessus de lui-même et lui fait ressentir la puissance du mystère et sa douceur surhumaine. C'est par l'amour, non par la raison, qu'un être humain ressent la proximité de l'absolu et se sent fait pour le royaume. Personnellement, dans les préparations au mariage, je prends un malin plaisir à constater combien l'expérience de l'amour chez les jeunes qui veulent se marier les ouvre quasiment à Dieu. Voilà, il y a une petite frontière qui les sépare encore, mais on est vraiment sur une longueur d'onde à l'identique, quoi. Ça, c'est clair. C'est Dieu qui est derrière. Alors, je vous laisse lire ce qui est marqué. Vous lirez ça chez vous tranquillement, ce qui est marqué en petit caractère. On descend un petit peu sur la feuille. L'homme profane ne cesse de brader l'amour, soit en se mettant en tête de l'expliquer, soit en le rabaissant à son médiocre niveau d'existence. Aussi faut-il souhaiter qu'une folle passion tombe sur lui comme la foudre et renverse tous ses repères prudents, ou qu'un être cher disparaisse de sa vie pour qu'il puisse mesurer la valeur irremplaçable de l'amour et peut-être y ressentir quelques divines saveurs. Une deuxième porte d'entrée, c'est celle de la beauté. Celle de la beauté qui emplit d'une joie pure. Innombrables, somptueuses ou simples sont les beautés qu'offre la nature pour qu'il les contemple. Elles introduisent à une autre dimension dont l'émerveillement est la clé. La philosophe Simone Weil, pour qui la qualité d'attention est une vertu majeure, note cette réflexion. Étoiles et arbres fruitiers en fleurs, la permanence complète et l'extrême fragilité donnent également le sentiment de l'éternité. Simone Weil, qui n'a pas été baptisée, qui était proche du baptême et qui est morte en camp de concentration, je crois, en 1940, qui était juive, mais qui était vraiment tout près du Christ. Tous nos sens, et non seulement la vue, sont aptes à ressentir la beauté profuse. Mais l'homme extérieur veut avant tout en jouir, l'accaparer, tandis que l'homme intérieur est porté à la contempler. Voilà, vous regarderez le reste chez vous tranquillement. Une troisième porte, plus radicale. Parce que l'homme charnel reste dans son opacité, dans son insensibilité face aux nombreuses manifestations de la beauté et de l'amour qui sont autant d'appels à une vie supérieure. L'épreuve est l'ultime possibilité d'accéder à un autre monde et d'élever son âme. À la faveur d'une crise, une personne est invitée à distinguer l'essentiel du superflu et à pressentir, au-delà de l'existence terrestre, une vie incomparable. Alors cette crise, cette épreuve peut revêtir toutes sortes d'aspects, une perte, un deuil, une maladie grave, la trahison, l'abandon, l'injustice, l'inévitable souffrance, le désespoir affreux, le repentir profond de conduite de débauche. C'est une porte décisive que nul ne peut éviter. C'est aussi la dernière chance d'ouvrir sa cuirasse, de remettre en question ses certitudes et de s'éveiller à une présence infiniment plus vaste que soi. Confronté à une terrible épreuve, un être humain peut sombrer, mais il peut aussi ressentir comme jamais la proximité de Dieu. Tandis qu'il a tout perdu, qu'il se sent abandonné de tous, il peut aussi prendre conscience de ses richesses intérieures inaliénables et avoir l'expérience lumineuse de l'esprit indestructible. Lorsqu'il ne reste rien, il reste en lui l'esprit. Alors que tout autour de lui semble un désert, l'esprit divin peut se manifester. Comme il se manifestait dans la beauté des choses et l'amour des créatures, mais on n'y faisait pas attention. On était si occupé par ses affaires terrestres et tant préoccupé de soi. Mais lorsque tout a été perdu, quand il n'y a plus de secours humain à entrevoir, c'est alors que l'âme dénudée est apte à ressentir une fraîcheur de brise de rosée, comme il est dit dans le livre de Daniel. Telle est celle de l'ange du Seigneur qui fit souffler sur les trois jeunes gens jetés par Nabucodonosor dans une fournaise. Cette expérience spirituelle déclenchée par une grande épreuve, par la confrontation avec sa finitude, on la désigne par une image évocatrice, celle du trésor parmi les ruines. Que reste-t-il lorsqu'il n'y a plus rien, lorsque tous les plaisirs s'effacent, les attachements humains se dénouent, lorsque les possessions terrestres se révèlent illusoires et que le corps se trouve confronté à la mort? Il reste le plus précieux, l'immortel trésor spirituel, qui a toujours été là, mais caché par le paysage obscur à nos yeux charnels, et qui maintenant, dégagé de tout l'inessentiel, sauvé du temporel, illumine notre conscience. Il est des crises passagères que l'on peut surmonter, dans lesquelles on recourt à une aide extérieure amicale, psychologique ou médicale, mais face à la mort, il n'y a pas de remède, seulement une attitude consciente, ou bien une posture philosophique, ou encore une voie spirituelle. Force est bien de constater que devant la mort assurée, la psychologie est impuissante, et aucune thérapie ne guérira jamais le mortel de sa finitude. Au mieux, elles entretiennent l'illusion d'aller mieux, de durer. La seule formule chétive consolation que la psychologie propose tient en se faire son deuil, qui apparaît grotesque et odieux. Il s'agit là encore d'anesthésier la conscience, d'empêcher le patient de s'éveiller à sa dimension spirituelle qui fait de lui un vivant. Le monde psychique est incapable d'accueillir, de ressentir l'univers spirituel, d'en percevoir les signes, d'en vivre les expériences irréversibles, comme il refuse le mystère et les interventions transcendantes. Il ne lui reste plus qu'à trouver des formules, des mots magiques, comme des emplâtres dans une langue de bois, qui ont l'air de plaire aux gens en désarroi, friand d'explications, de rationalisations. Ce n'est pas parce qu'on explique quelque chose que cela est vrai. Ainsi, plutôt que de laisser place à une irruption de l'Esprit-Saint ou d'accorder foi à ceux qui font l'expérience de la présence de Dieu au cœur du malheur, on parle désormais de résilience. Et tout le monde est content. C'est aujourd'hui le concept obligé, comme le poumon pour le médecin ridicule de Molière ou la vertu dormitive de l'opium. Par les portes de l'amour, de la beauté ou de la douleur, Chacun est invité à accueillir le monde supérieur, le monde de Dieu, et à ressentir en lui une puissance ineffable qui n'a rien d'humain, la présence du divin. Une étreinte amoureuse peut mener à une expérience mystique, n'en déplaise aux puritains, tout comme la vue de mimosas en fleurs, la contemplation du ciel étoilé ou l'audition d'une musique peuvent provoquer le ravissement de l'âme, et comme une maladie ou un emprisonnement peuvent éveiller au sentiment d'immortalité. Ce sont des possibilités qui s'offrent, mais tout homme est libre de refuser une telle expérience, de la rabaisser ou encore de la chasser de sa mémoire. Il n'en reste pas moins que les trois portes demeurent, permettant la circulation entre le monde visible et le monde invisible, entre la vie sensible, forcément limitée, et une vie supérieure, la vraie vie, celle qui ne connaît pas de fin. Alors ce serait intéressant, n'est-ce pas, si on avait le culot de pouvoir partager nos expériences personnelles que nous avons pu faire dans notre vie, une fois ou l'autre, ce serait intéressant. Je suis persuadé que chacun de nous a déjà fait, peut-être une fois dans sa vie, en tout cas, une expérience spirituelle forte, marquante, qui demeure dans sa mémoire comme une référence, et comme un moment où vraiment où il a été absolument dans la conviction, comme une certitude absolue que Dieu existe, que Dieu est vivant et qu'il est la vérité et la vie.